Maseret Roulin de Tzadik Aleph. On était en train de chercher, on était au milieu d'une recherche selon Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda disait, et au début il était en sachek, quel est le guide d'un achet que la Torah interdit, celui de droite ou celui de gauche? Finalement Rabbi Yehuda a dit, il semble qu'il s'agit juste du guide d'un achet de droite. La Gemara demande, qu'est-ce que c'est que ce il semble? Est-ce que c'est une maskana, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda a tranché que celui de droite, c'est lui qui est interdit de la Torah et l'autre est permis. Ou bien Rabbi Yehuda, il dit que la Sevara, elle pend plutôt vers ce côté, mais c'est pas encore décidé vraiment. Donc la Gemara avait déjà ramené une première preuve, et la Gemara continue avec un deuxième Tashma. Donc on commence donc dans le Daf Tzadik Aleph au Tashma qui se trouve donc à la septième ligne, au deuxième mot. Tashma, achal mize kazaït mize kazaït. Une personne qui a mangé du guédon haché de droite et de gauche aussi, un kazaït de chaque. Sofeg shmonim, il reçoit 80 coups. Rabbi Yehuda Omer, et non sofeg el arbaim, il n'en reçoit que 40. Iyamrad bishlama mifshat pshitale, ça va bien si je dis que Rabbi Yehuda a tranché. Shapir, je comprends qu'il reçoit 40 coups. Il reçoit 40 coups sur celui de droite et 0 sur celui de gauche. Et la yamrad, ça faut qu'il me sapkale. Mais si tu penses que Rabbi Yehuda est encore en safek, alors comment est-ce que pourquoi le frapper? Havia la tera safek. C'est un avertissement mis safek dans le doute. Vesham inan el Rabbi Yehuda. Or, on a déjà entendu Rabbi Yehuda de Amar qui a dit que la tera safek, quand on avertit quelqu'un dans le doute, l'oshmatra, c'est pas un avertissement, c'est-à-dire, avant de frapper quelqu'un, de lui donner un malkout, il faut l'avertir avant, sache, tu es en train de transgresser un issour de la Torah, on va te frapper, tu vas recevoir 39 coups. S'il dit, c'est pas grave, je le sais quand même, eh bien, on l'amène au Bedin et on le frappe. Donc, il faut l'avertir. Il faut une atra. Si maintenant je lui dis, écoute, tu risques peut-être d'être frappé parce que c'est peut-être celui-là le guide d'Anaché que la Torah interdit. Je ne sais pas si c'est celui de droite ou celui de gauche. Donc, maintenant, tu vas manger celui de droite, peut-être que tu transgresses un issour de la Torah. Et lui, il dit oui, d'accord. C'est insuffisant, selon Rabbi Yehuda, comme atra'a, comme avertissement. Donc, quand je l'avertis avant le guide de Naché de droite, c'était insuffisant. Quand je l'ai raverti avant le guide de Naché de gauche, c'était encore une fois insuffisant. Donc, je n'ai aucune raison de le frapper. Je ne peux pas le frapper ni sur la première atra'a et la première consommation, ni sur la deuxième atra'a avec la deuxième consommation. Ce n'est pas possible. Détania. Donc, on sait que Rabbi Yehuda pense qu'une atra'a, un avertissement dans le doute, n'est pas une atra'a. Détania, comme on voit une braïta qui dit. D'ailleurs, toute cette sugya-là, on l'a déjà vue il y a quelques dapim, daf pebet à moudbet, donc ça fait une semaine à peu près. Détania, mikaedze vechazar vekaedze. Celui qui ne sait pas qui c'est son père, parce que sa mère, elle a fait un deuxième mariage très rapidement après le premier, elle n'a pas attendu 3 mois. Or, les chachamim ont interdit à une femme qui s'est séparée de son mari, une femme qui a perdu son mari ou qui s'est divorcée, de se remarier pendant 90 jours. Donc, elle est obligée d'attendre 3 mois de peur qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir un enfant et on ne saura pas qui est son père, le premier ou le deuxième. Cette femme-là a transgressé ce issur midrabanan. Elle s'est mariée après s'être divorcée du premier mari. Maintenant, elle a eu un enfant. Cet enfant-là, il ne sait pas qui est son père. Et la Torah, elle dit, celui qui frappe son père, si son père a saigné, eh bien, le fils, il est chayav mita. Il est chayav mita, il est condamné à mort. Ce fils-là en question, qui ne connaît pas son père, a frappé l'un et ensuite l'autre. Donc, je reprends. Détania ikaedze, vechazav ikaedze. Il a frappé l'un, le premier père, entre guillemets, et ensuite le deuxième. Ou bien, qu'il a l'aide vechazav ikaedze, il a maudit le premier et ensuite le deuxième. Or, la Torah dit aussi sur celui qui fait une kelala, qui maudit son père, lui aussi, il est chayav mita. Ou bien, il était plus efficace. Il a utilisé ses deux mains en même temps pour frapper les deux pères en même temps. Ou bien, il a grand ouvert sa bouche, il a maudit les deux pères en même temps. Chayav, il est chayav. Rabbi Yehuda Omer, bevatachat chayav. S'il les a frappés en même temps, il est chayav. Mais zéharze patour. Mais un derrière l'autre, il est patour. Pourquoi? Justement, pour cette même raison. Parce que quand il vient frapper les deux pères en même temps, je peux lui faire une atrate vadaï. L'avertissement que je lui fais, c'est un avertissement qui n'est pas dans un, qui n'a pas de safek, qui n'a pas de doute. Je lui dis, écoute, tu frappes les deux, tu seras chayav, sans safek, parce que un des deux est certainement ton père. Donc là, effectivement, il est chayav. Tandis que dans le cas où il a frappé un, ensuite l'autre, selon Rabbi Yehuda, il n'est pas tôt parce que c'est une atrat safek, un avertissement dans le doute. Donc, on voit de là que Rabbi Yehuda pense qu'une atrat safek n'est pas une atrat. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas tôt. Donc, revenons au guide anaché. Comment est-ce que Rabbi Yehuda dit celui qui a mangé les deux guides anaché, celui de droite et ensuite celui de gauche, il est frappé, il est le karbaim, il est frappé de 40 coups. On devrait dire qu'il n'est pas tôt. Si ce n'est que Rabbi Yehuda pense qu'on n'a plus de doute, celui de droite est interdit, celui de gauche est permis. Donc de là, on a une preuve que Rabbi Yehuda pense comme ça, que Rabbi Yehuda a tranché que c'est celui de droite qui est interdit et celui de gauche qui est permis. Et répond la Gemara, Haïtana, on n'a pas de preuve d'ici, ce Tana pense, savoir la Kéhid Artana de Rabbi Yehuda. Il pense comme un autre Tana au nom de Rabbi Yehuda, de Amar Atra Tzatek Shma Atra, qui pense que une Atra, un avertissement dans le doute, et oui, un avertissement. Et c'est lui considéré comme une atra. D'Etania. Et la Gemara, maintenant, elle va ramener la preuve, elle va ramener l'autre Tana qui pense, au nom de Rabbi Yehuda, que c'est lui une atra. Et donc, si c'est une atra, qu'est-ce qu'on aura gagné? Que même si Rabbi Yehuda n'a pas tranché quel est le guide d'Anaché qui est interdit, il peut quand même dire que s'il a mangé les deux, il est Chayav Malkout. Il reçoit 40 coups parce que il a été averti dans le doute. Avant le premier et avant le deuxième. Et une fois qu'il a mangé les deux côtés, je n'ai plus de doute. Je sais qu'il a certainement transgressé le issour de la Torah. Parce que soit c'est celui de droite qui est interdit, or il a mangé. Soit c'est celui de gauche qui est interdit, or il a aussi mangé. Donc un des deux, sur un des deux, il est chayav. Et où est-ce que Rabbi Yehuda a dit ça? Qu'une atra, ça fait qu'une atra dans le doute, ça fait lui un avertissement. D'Etania. Donc d'Etania, au début de la ligne. L'autre tiru mimenu ad boker. Vous n'avez pas le droit de laisser de la viande du korban pesach jusqu'au matin. Il faut le terminer. Bakatuv litenase, achar lotase. La Torah est venue ajouter une mitzvah tase, une mitzvah positive, sur, au-delà de la mitzvah négative qui interdit de le laisser jusqu'au matin. Parce que la suite du pasuk, il n'est pas écrit dans la Gemara ici. La Gemara dit que le début du pasuk, mais elle dit vegomer, etc. La suite du pasouk, après la mitzvah négative qui dit ne le laissez pas jusqu'au matin, la suite du pasouk, c'est que si vous l'avez laissé, vous devrez le brûler. Donc c'est une mitzvah assez, de le brûler. L'oma, à quoi ça sert cette mitzvah assez? Chez en lokinala, c'est pour nous dire qu'on n'est pas frappé dessus, dit Rabbi Yehuda. Donc selon Rabbi Yehuda, celui qui n'a pas mangé son korban pesach, attend, il n'a pas terminé à temps, et le matin est arrivé, il lui reste du notar, il lui reste de la viande qu'il n'a pas mangée. Il n'est pas loqué malgré qu'il a transgressé un lave de la Torah, parce que, pourquoi il n'est pas chayav, pourquoi on ne le fera pas? Parce que la Torah a réparé cette avera par une mitzvah positive qui dit de se lever, de le brûler, de brûler la viande, de la brûler. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda a dit. Donc, déjà, si on s'arrête là, c'est déjà suffisant pour voir que Rabbi Yehuda n'est pas gêné par la atrat safek. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, a priori, il n'avait pas besoin de cette mitzvah tassé. Il aurait pu dire, on ne le fera pas. Celui qui laisse du korban pesach, il n'est pas loqué. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on ne peut pas l'avertir une atrat vadaï. C'est-à-dire, celui qui va l'avertir, ce sera toujours une atrat safek. Ce sera toujours un doute parce qu'il lui dit, écoute, tu dois manger la viande du korban pesach. Si tu ne la manges pas, tu risques de la laisser jusqu'au matin. Et donc, tu seras chayav. Et lui dit d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire d'accord? Ça veut dire maintenant je ne la mange pas. Mais si je ne la mange pas tout de suite, peut-être que je la mangerai dans 5 minutes, peut-être que je la mangerai dans 10 minutes, peut-être que je la mangerai une minute avant la fin de ton temps. Et donc, ça sera toujours une atra tzafek. Et puisque c'est toujours une atra tzafek, c'est déjà suffisant pour dire qu'il n'est pas chayav. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a-t-il besoin de la mitzvah tassé pour le rendre patour? Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a besoin d'arriver au fait que c'est un lav anitak léassé? C'est une mitzvah négative qui a été réparée par une mitzvah positive, où la Torah dit ne le laisse pas, mais si tu as laissé, tu vas brûler. Et que donc la règle, elle est dans ce cas-là de ne pas le frapper. On aurait pu dire tout simplement qu'on ne le fera pas pour une autre raison, parce que ça sera toujours une atratzafek, un avertissement dans le doute. Donc, du fait que Rabbi Yehuda a eu besoin de cette mitzvah tassela pour le rendre patour, c'est que Rabbi Yehuda pense que atratzafek, c'est oui une atra. L'avertissement dans le doute est oui considéré comme un avertissement. Et donc, on peut revenir à ce qu'on a dit, que, effectivement, celui qui a mangé le guide NH des deux côtés, il a eu une atra tzafek avant de manger le premier, il a eu une atra tzafek avant de manger le deuxième, on lui a dit si tu manges ça, peut-être que c'est celui-là qui a interdit la Torah. Ensuite, il a mangé. Ensuite, on lui a dit si tu manges l'autre, c'est peut-être celui-là qui a interdit de la Torah, et il a mangé. Et donc, il est chayav. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, aussi bien si c'est celui de droite qui est interdit que celui de gauche, il était averti, et donc il est chayav. Rabbi Yaakov Omer, je continue donc dans la braïta du Korban Pessah. Rabbi Yaakov, en fin de ligne, Rabbi Yaakov Omer, l'homme in Hashem ouze. C'est pas pour ça que on ne le frappe pas. Et la Mishum de Avalav Shen Bomaase. Parce que cet homme-là, il a transgressé le lav, l'interdiction de la Torah, sans faire d'action. Il s'est assis et il n'a pas mangé la viande. Il ne s'est pas levé faire une action. Donc c'est un lav Shen Bomaase. Là-dessus, on n'est pas chayav. Tashma. Donc la Gemara, elle revient, elle continue sa recherche. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda pense? Est-ce que selon Rabbi Yehuda, on est chayav sur celui de droite? Est-ce que Rabbi Yehuda pense que c'est tranché, que c'est celui de droite qui est interdit, ou Rabbi Yehuda est resté encore en safek? Donc Tashma vient, écoute. Achal shne gidin mishte irachot mishte bemot. Celui qui a mangé deux guidanachés, mishte rachot de deux hanches, mishte bemot de deux bêtes. Donc il s'agit ici que les deux sont du côté droit. Parce que s'il s'agissait de la droite et de la gauche, ce n'était pas la peine d'amener ici une deuxième bête. On aurait pu se suffire d'une seule bête. Donc de là, on comprend qu'il s'agit que les deux sont le guidanaché de droite. Sofeg shmonim, il est chayav 2 × 40. Pour les deux guidanachés, donc 40 et 40, ça fait 80. Rabbi Yehuda Omer, et non, ça fait que l'arbaïm, selon Rabbi Yehuda, il n'est loqué que 40 fois. C'est ce que la Braïta dit. Et la Gemara commence à raisonner, à réfléchir. Du fait que la Braïta a dit de deux hanches, de deux bêtes différentes, pshita de tarva le yisura. Évidemment qu'il s'agit que les deux sont interdites. Parce que si c'était un safek, qu'il y avait la droite et la gauche, c'était pas la peine d'amener ici une deuxième bête. On aurait pu se suffire d'une seule bête. Donc, du fait qu'on a besoin de parler de deux bêtes, c'est que les deux sont les guidanachés de droite, et qu'il a mangé donc les deux de droite, et donc, les deux sont interdits. Ou le Rabbi Yehuda est terir, et le Chidush, il est selon Rabbi Yehuda qu'il est chayav quand même 40. Shmamina mifshat pshitale. Donc, selon Chachamim, il n'y a pas de Chidush, parce que s'il a mangé deux guidanachés, évidemment qu'il est chayav 80. Il a transgressé de la Averot. Selon Rabbi Yehuda, par contre, il est chayav donc 40. Ça, c'est un chidouche. C'est pour nous apprendre que justement, c'est ça le guide anaché qui est interdit. Donc, shmamina, mipshat, pshitale, shmamina. Ça y est, on a terminé la recherche. On a trouvé ici clairement que Rabbi Yehuda, mipshat, pshitale, il lui est évident que celui de droite, c'est lui qui est interdit. Celui qui mange donc deux guides anaché de droite, il sera chayav. Il sera chayav, donc il est frappé de 40 coups. Et là, la question, elle saute tout de suite. Si c'est comme ça, pourquoi 40? Pourquoi pas 80? Il en a mangé deux. Il mérite 80 coups. 40 pour le premier, 40 pour le deuxième. C'est ce que demande la Gemara tout de suite. Ve'ip shitale. Donc, on en est au début des grandes lignes. Ve'ip shitale. À la fin de la première ligne, de la première des grandes lignes. Amay sofeg arbaim. Si c'est comme ça qu'il est évident que celui de droite est lui qui est interdit, pourquoi il reçoit que Arbaïm Vetoulo et pas plus que ça? L'il Keshmonim, il devrait frapper de 80 coups. Répond la Gemara, Achabemayaskina, de quoi il s'agit ici? Il s'agit qu'il n'a pas mangé un kazaït. Dans un des deux guidanachés, il n'y avait même pas un kazaït. Et donc, ici on arrive à une machloquette. Est-ce que sur un guidanaché qui ne fait même pas un kazaït, il est chayav, oui ou non? Et on a dessus une machloquette. Netanya, achalov en bo kazaït chayav. Selon Tanakama, il est chayav, même s'il n'y a pas de kazaït. Rabbi Yehuda Omer, achet bo kazaït. Selon Rabbi Yehuda, il faut qu'il y ait un kazaït. Donc, selon Rabbi Yehuda, on voit qu'il faut qu'il y ait un kazaït, parce que moins que ça ne s'appelle pas manger. Et donc, ici, où il en a mangé un qui a un kazaït et un autre qui n'a pas de kazaït, il n'est pas khayav sur celui qui n'a pas de kazaït, que sur celui qui a eu un kazaït. Donc, il n'est khayav que 40 coups. Par contre, selon Chachamim, il est khayav de 80 coups, parce que Chachamim pense que même sur un guide anaché qui ne fait même pas un kazaït, il est khayav. De la même manière que celui qui mange une fourmi, il est khayav même si elle ne fait pas un kazaït, parce que c'est une créature en soi. Elle est importante. Donc ici aussi, le guide anaché, il est important. Et donc, on est khayav dessus. Vetamamai, quelle est la raison que Rabbi Yehuda a décidé qu'il s'agit de la droite et pas de la gauche? Répond la Gemara, plusieurs réponses. Première réponse, Amarava Markra, la Torah dit, Hayarech. La Torah dit, la hanche. Ha, c'est la connue. Hamyumenet Shebayarech. Donc, toujours quand la Torah dit la chose, il s'agit de la chose de droite, la plus importante. Donc, ici aussi, Hamyumenet, la plus importante, Shebayarech des hanches, donc, c'est celle de droite. Des Rabbanan qui disent que les deux sont interdites. Pourquoi est-ce que la Torah elle dit Hayarech, la hanche? Pourtant, les deux sont interdites. Répond la Gemara. Le Rabbanan haou de Pashit Isure, la Torah, elle vient faire allusion. Elle vient nous préciser que de quel guide anaché, de quel nerf sciatique il s'agit? Celui qui s'est répandu de Kouleyarech dans toute la hanche, la Foukachiton de l'eau. Ça vient faire allusion qu'il s'agit donc du guide anaché intérieur et pas extérieur. Celui de l'intérieur, il s'étend dans toute la hanche, tandis que celui de l'extérieur, il est plus petit. Et donc, c'est ce que la Torah a voulu faire allusion, que celui-là est permis. Les Chachamim l'ont interdit, comme on l'a vu dans le daf précédent, je pense. Mais, Mina Torah, il est... Non, c'est au début de Shamoud. On l'a rentré dans le cours d'avant, mais c'est au début de Shamoud. Mais la Torah l'a permis. Rabbi Yehoshua ben Levi Amar Kra. Deuxième réponse. Donc ça fait déjà une réponse en avis, parce que quand la Torah dit Hayarer, je comprends celle de droite. Rabbi Yehoshua ben Levi dit Amar Kra, la Torah dit Behe Avko Imo. C'est quoi l'histoire du guide anaché? Pourquoi la Torah interdit le guide anaché? L'histoire, c'était que Yaakov Avinu, il avait traversé le fleuve de Yabok, Nahal Yabok. Il a fait traverser toute sa famille. Il avait oublié des petites cruches d'huile. Il a fait retour. La nuit est tombée entre temps. Il a traversé le Nahal Yabok, le fleuve de Yabok, et tout seul. Il est arrivé là où il avait perdu ses cruches d'huile. Et là-bas, il a rencontré l'ange de Esav, le Malach. Le Malach de Esav s'est disputé avec lui toute la nuit, jusqu'à que finalement, Yaakov l'a vaincu. Mais le Malach ne s'est pas laissé faire complètement. Il lui a donné un coup, et il lui a donné un coup qui a fait que le guide de Yaakov a naché. Il s'est détaché de sa place. Donc le nerf sciatique, ça commence par Yaakov, où lui, il a été blessé justement à cet endroit-là. Et donc, naché, ça veut dire ça a sauté, et son guide a sauté. Et donc justement, la Torah l'interdit dorénavant, en souvenir de cette histoire-là. Maintenant, on reprend donc dans le pasouk. La Torah l'interdit en disant, parce que l'ange, le malach, a frappé Yaakov, de Avkoimo, en se disputant avec lui. Ke Adam, je reprends dans la Gemara, Ke Adam, Shechovek et Travero. Donc la dispute, elle était, on imagine que la dispute, elle était de la manière habituelle, comme un homme qui attrape, qui enlace son ami pour se disputer avec lui, pour le faire tomber. Viadom Agat, et sa main, la main droite, donc ils sont un en face de l'autre, et donc la main droite du malach, en quelque sorte, elle arrive jusqu'où? Jusqu'au côté droit du dos de Yaakov, le kaf yaminosh el chavero. Donc c'est le nerf sciatique de droite de Yaakov qui a été touché par la main droite du malach, parce que la main droite, elle est longue, donc elle arrive, elle fait le tour en enlaçant sur la personne qui se dispute avec elle. Elle arrive jusqu'au côté droit, justement, de la personne qui se trouve en face. Et donc, Yaakov a été blessé du côté droit. C'est pour ça que c'est le guide anaché de droite qui est interdit. Troisième explication. Non, pardon. Maintenant, la Gemara, elle rentre dans les détails un peu. Qui était ce malach? De quoi ça avait l'air? Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, que Oved Kochavim Nidmalo, il lui a paru comme un goy. Et donc, ça nous explique, d'Amarma, c'est lui une troisième explication, c'est lui une troisième réponse, pourquoi est-ce que c'est le côté droit qui est interdit? Parce que ce malach-là lui a paru comme un goy. Et la Gemara nous dit, un juif qui a rencontré un goy en chemin, Israël, Shenit Palo, Oved Kochavim Ader, donc un juif qui a rencontré un goy en chemin, le goy vient marcher à côté de lui, genre l'accompagner, Toflo Limino, il le met à côté de lui, accessoire, à sa droite. Donc le juif est à la gauche et le goy est à la droite. Pourquoi à la droite? De manière à ce que si le goy chas v'shalom va attaquer le juif, eh bien le juif il aura sa droite du côté du goy et il pourra se surveiller. Il pourra surveiller avec sa main droite, sa main forte. Rav Shmuel Baracha, Kamed Rafava Mishmed Rava Baroula, Amar. C'est encore une explication, donc on en a vu déjà trois. Ce sera la quatrième. Ketalmid Chacham Nidmalo. Le malach lui est apparu comme un Talmid Chacham. Et donc, à nouveau, il faut que le Talmid Chacham soit placé à la droite de Yaakov. D'Amarmar. Hamealech Limin Rabo. Celui qui marche à la droite de son maître, Harezebour. C'est un Amar et tu connais rien. Et donc, c'est pour ça que quand il a rencontré le malach, qui lui est apparu comme un Talmid Chacham, Yaakov ne pouvait pas se tenir du côté droit à la droite du malach. Donc il s'est mis lui-même, Yaakov, il s'est mis à la gauche du malach. Et donc, ce qui fait que le malach, quand il a frappé Yaakov, il a frappé à côté de lui, qui était donc, et donc il a touché le côté droit de Yaakov. Donc on a finalement quatre explications. Pourquoi est-ce que c'est la droite? Soit Hayarer, c'est la hanche, la fameuse hanche, il s'agit de l'importante, la droite. Soit il l'a enlacé, et donc il a touché son côté droit, soit c'était comme un goy, soit comme un talmid chacham, et donc il devait le placer à sa droite. Les rabbanan, et les rabbanan qui disent que Yaakov a été frappé des deux côtés, mais à choreata, ils pensent que le malach est venu derrière Yaakov, venachier, ça vient du mohan naché, il l'a blessé, il a fait sauter les deux nerfs, betarvayu, les deux côtés. Les rabbanan demandent à Gemara, Aïde Avkoïmo Maïdar Shebe. Qu'est-ce que les rabbanan font comme dracha sur le mot Be Avkoïmo en se disputant avec lui? Selon Rabbi Houda, c'est de là qu'on apprend qu'il s'agit de la droite, comme on a dit. Parce qu'il l'a attrapé, il l'a enlacé entre ses bras. Et donc, ça fait que la main droite du malach est arrivée jusqu'au côté droit de Yaakov. Mais selon rabbanan qui disent que les deux côtés ont été frappés et que le malach est venu par derrière, qu'est-ce qu'on apprend du mot Be Avkoïmo? Répond la Gemara, mi baile, on en a besoin, les kideider de Rabbi Yoshua ben Levi, pour l'autre dracha. D'amar Rabbi Yoshua ben Levi, melamed, shelu avak margelotam, la poussière de leur pied est arrivée, ad kise akavon, jusqu'au trône d'Hachem. Ktivacha be'av koimo, ici c'est écrit be'av koimo, qui veut dire en se disputant avec lui, ou plutôt be'av ko, donc il y a de la poussière qui est montée dans la dispute. Uktivatam ve'anan avak raglav. Et il est écrit à propos du Kisé Akavod, le nuage avak de poussière à ses pieds qui virol. Donc on apprend de là que la poussière, elle arrive jusqu'au Kisé Akavod. Donc c'est pas une dispute physique. C'est une dispute qui monte très haut. Qui monte très haut avec un sens très profond. Une des explications qu'on dit justement, c'est que les pieds, c'est le soutien du clan d'Israël, c'est les pieds d'Yaakov, c'est en fait le soutien du clan d'Israël. Et donc le malach, en voyant qu'il ne pouvait pas, blesser la Torah elle-même, il ne pouvait pas blesser les lombes de Torah, ceux qui étudient la Torah, il a eu réussi quand même de blesser ceux qui soutiennent la Torah. Et donc il a frappé le pied qui est le soutien de Yaakov, qui est la Torah. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, l'amanikra shemogidin haché, pourquoi il s'appelle Gide Nashé? Chez Nashamim Komo, parce qu'il a sauté de sa place, vers là il est monté. Vren ou Omer, comme le passage dit, Nashtag Vuratam, leur force à sauter, Hayul et Nashim, ils étaient comme des femmes. Donc c'est un passage qui veut parler d'une faiblesse d'un peuple, en disant Nashtag Vuratam. Donc Nashtag, ça veut dire ça a sauté. Amar Abyesiva Abichanina Maïdirtiv. Davar Shalach, que veut dire le passage? Davar Shalach Biyakov, une chose était envoyée chez Yaakov, Venafal b'Israël est tombé dans Israël. Devar shalach b'Yaakov. Qu'est-ce que le début du pasuk veut nous dire par là? Il a envoyé quelque chose chez Yaakov, ze gidanaché. C'est le gidanaché qui a été blessé chez Yaakov lui-même, Yaakov Avinu. Venafal b'Israël, il est tombé dans Israël, chez Pachat Yitzuro b'chol Israël. Son interdiction, son yitzur était répandu dans tout le clan Israël. Ve'amar b'Yassid Rabchanina. Maïdirtiv, encore un pasuk, utvoach tevach ve'achem. Donc, ce pasuk-là raconte comment Yosef a invité ses frères, Yosef en Égypte, a invité ses frères à manger chez lui, et il ordonnait à son serviteur de faire la shrita pour leur servir de la viande. Donc il a dit, utvoach tevach ve'achem. Fais la shrita et prépare-le. Prépare-leur à manger. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk? Pra lehen bet ashrita. Premièrement, ouvre et découvre l'endroit de la shrita pour qu'il voit clairement que on lui a fait la shrita. Parce qu'il faisait attention aux mitzvot, les fils de Yaakov, les shvatim. Et deuxièmement, ça c'est tevach tevach. Donc montre-leur bien que la shrita a été faite correctement. Ve'achen. Et prépare la viande. Qu'est-ce qu'il y a préparé? Tol gidanaché bifnem. Retire le gidanaché devant eux. Pour qu'ils voient que ils n'ont rien à craindre, c'est kasher, c'est bien kasher. Keman de Amar Guy de Naché, Nessar Livne Noir. Ça va comme, c'est Drachal, elle va comme le Man de Amar, comme celui qui pense que le Guy de Naché était interdit déjà avant Matan Torah, a déjà été interdit du temps de Yaakov. Encore un pasouk, dans cette même dispute-là, Vaivater Yaakov Levado. Yaakov est donc resté tout seul jusqu'au matin. Il est resté tout seul pour chercher. Pourquoi il est resté tout seul? C'est ce que la Gemara explique ici justement. Amar Rabbi Elazar shenishtayer al pachin ktanim. Il est resté pour retrouver ses petites cruches. Mikan le tzadikim. De là, on apprend que pour les tzadikim, shechaviv alem amonam yoter migufam. Leur argent, leur bien, leur est précieux plus même que leur corps, parce que Yaakov s'est mis en danger pour récupérer ses cruches. Vechol kachlama. Et comment ça se fait que c'est comme ça? Les fiches en pochtin yeden begezel. Parce que leurs biens ont été acquis proprement, n'étendent pas leurs mains dans le vol, dans le gezel, ils ne volent pas. Et donc leur argent est propre, et donc ils font très attention à ce qu'ils ont gagné, parce que ça vaut plus, ça vaut cher, c'est important, ça sert à faire des mitzvot, on ne peut pas le négliger. Et donc le tzadik, quelque part, il se met un petit peu même en danger, et pour faire attention à son argent. Vayavek Ishimo Adalot Hashachar. Un homme s'est disputé avec lui jusqu'au matin. Amar Rabbi Yitzhak, Mikan et Talmid Racham. De là, on apprend qu'un Talmid Racham, qu'il ne peut pas sortir tout seul pendant la nuit, c'est dangereux. Voilà Yaakov, qui était un Talmid Racham. Il est sorti la nuit tout seul, et voilà ce qui lui est arrivé. Une dispute avec un malar toute la nuit. Donc, ça l'a mis en danger. Rabbi Abba Bar Kana Marmeacha, d'un autre pasouk qu'on apprend cette même halakha, je tourne la page, le pasouk dit à propos de Boaz qui était le mari à la fin de sa vie, c'est lui qui s'est marié avec Ruth, qui a mis naissance à Oved, le père de Yishai, le père de David, etc. Donc c'est l'histoire connue de Shavuot. Et il est dit donc à propos de Boaz, Yineuzore et Gorena Seorim. Voilà donc Naomi, qui était la belle-mère, la première belle-mère, la belle-mère du premier mariage de Ruth. Elle a dit à sa belle-fille, à Ruth, elle lui a dit, va chercher Boaz. Voilà, il est dans la grange et il s'occupe de l'orge là-bas. Zoré, ça veut dire jette au vent pour séparer la paille des grains. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que Boaz reste au champ pendant la nuit. Il ne se promène pas pendant la nuit pour entrer à la maison. Donc, la nuit est tombée et qu'il a dû rester dans le champ, eh bien, il va passer là-bas la nuit. Donc, c'est encore une preuve qu'un Talmid Chacham ne circule pas pendant la nuit. Rabbi Avo Amar Me'acha, un troisième pasouk, Me'ashkem Avram Aboker, Avram s'est levé tôt le matin, Me'achavosh et Tramoro, et il a attaché son âne. Donc, Yahavosh, ça veut dire au contraire, il a préparé son âne à sortir. Donc on voit de là qu'Abraham ne s'est levé que le matin, il n'est pas sorti la nuit. Verabanan Amremer, encore un pasouk. Lechna a dit à Yaakov à Yosef, va avant que Yosef ne descende en Égypte. Quand Yosef était encore parmi dans le sein de la famille, Yaakov lui a dit, va voir ce qui se passe avec tes frères. Lechna re'e, je t'en prie, va voir. Et shlom achecha, et shlom aton, comment vont tes frères? Est-ce que tout va bien? Etc. On voit de là qu'il a dit d'aller voir. Donc tu vas, tu prends la route pour voir. Il s'agit donc du jour, on peut voir. La nuit ne sort pas. Rava Bar Me'acha, encore un pasouk. Vaizrach lo ha-shemesh. Et le soleil s'est levé pour lui. S'est levé pour lui. Et à ce moment-là, il est allé en chemin. Et là-bas, c'est écrit quand il est arrivé à Penuel. Donc, il s'agit d'un chemin qui a été pris, la route a été prise le matin. Amar Rabbi Akiva, shaltit Rabban Gamliel, vet Rabbi Yoshua. J'ai demandé à Rabban Gamliel, dit Rabbi Akiva, et à Rabbi Yoshua, beit liz shel imaum, dans la boucherie de Imaum, c'est le nom d'un endroit. Chez Halchouli Karbema, ils sont allés là-bas acheter une bête, les Mishte Benoshel Rabban Gamliel, pour la fête, à mon avis, ça doit être le mariage du fils de Rabban Gamliel. Et voici la question que je leur ai posée. Ktiv Veizrach lo Hashemesh. Le pasouk dit, le soleil s'est levé pour lui. Il s'agit de Yaakov. Vri Shemesh lo Levadzacha. Est-ce que le soleil ne s'est levé que pour lui? Va lo Lechol Olam Zacha. Pourtant, le soleil s'est levé pour tout le monde entier. Amar Rabbi Yitzhak. Répond la Gemara. Shemesh Abba Be'avuro. Le soleil qui s'est couché pour Yaakov avant son temps. Zacha Be'avuro s'est levé pour Yaakov avant son temps. Dirtiv. Parce que, où est-ce qu'on voit que le soleil s'est couché avant son temps? Avant la nuit, le soleil s'est couché pour Yaakov. Et là, la Gemara raconte toute l'histoire. Il est écrit lorsque Yaakov s'est séparé de son père. Mais il était Yaakov Ber Shava. Yaakov est sorti de Ber Sheva, qui est l'endroit de la ville de son père Yitzhak. Mais il est Haran et il est allé à Haran. Yitzhak, son père, l'a envoyé à Haran pour se marier. Donc il est allé à Haran. Uktiv Aifga Bamakom, il est arrivé à l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique la Gemara, raconte la Gemara. Kimata le Haran, Yaakov est arrivé déjà à Haran. Amar, il a dit, Efshar avarti, est-ce possible que je suis passé al makom shitpalu avotai, sur l'endroit où j'ai traversé l'endroit où mes pères ont fait des tfilot, Avraham et Yitzhak, venil itpalati, et moi je ne me suis pas arrêté là-bas pour faire une tfila. Donc il a réalisé qu'il avait traversé Haramoria, l'endroit du Beth Amikdash, au futur, et qu'il n'a pas fait d'arrêt là-bas pour faire de tfila. Donc il s'est étonné sur lui-même, est-ce possible que j'ai fait une chose pareille? Et donc il a décidé de revenir là-bas. Alors que c'est un autre pays, que c'est très loin. Et il a décidé quand même de faire marche arrière. Kadiaïf datel et miadar, lorsqu'il a décidé de revenir, kaftale ara, il a eu kfitat aderech, le chemin a sauté pour lui. Et donc, Miyad, Ifgaba Makom, tout de suite, il est arrivé à Yerushalayim. Kad Tali, lorsqu'il a fait la tfila, Bel et Meadar, il voulait retourner à Haran. Amar HaKadosh Baruch Hu, Tzadik Ze, Bal Evet Meloni, ce Tzadik La Yaakov, il est venu à l'endroit où je réside, où je me couche, Vipater Belolina, et il va sortir d'ici sans dormir. Donc Akadosh Baruch Hu dit, moi, j'habite ici, c'est mon endroit, et lui, le tzadik, il va pas dormir ici, il va pas passer la nuit ici. Miyad, Ba'a Shemesh. Akadosh Baruch Hu voulait que Yaakov dorme à cet endroit-là, et donc il a couché le soleil immédiatement. Et puisque le soleil s'est couché immédiatement, quelques heures avant la fin du jour, donc il a fallu rattraper ces quelques heures. Et c'est ça le passage qu'on a vu en haut, Veizrach lo Hashemesh. Le soleil s'est levé pour lui, pour rattraper les heures qui manquaient. Les heures de la journée qui ont manqué pour Yaakov. Negma ramène encore un pasouk. Ktiv Veikach Mavna Makom. Donc lorsque Yaakov était là-bas justement, lorsque Yaakov était à l'endroit du Beth Amikdash, et il s'est couché parce que le soleil s'est couché plus tôt. Alors, il a pris des pierres de l'endroit. Uktiv, Veikach et Even, quand il s'est levé, c'est écrit, il a pris la pierre. Donc, est-ce qu'il a pris plusieurs pierres ou il n'en a pris qu'une? Amar Rabbi Yitzhak, Melamed, Shenit Kabtsu, Kolotan Avanim. On apprend de là que toutes ces pierres-là se sont rassemblées, se sont unies. Lemakom Echad, à un seul et même endroit. Vekolachat Vachat Omeret, et chacune disait, Allah Yaniach Tzadik Zerosho. C'est sur moi que le Tzadik va poser sa tête. Tana, Vekula, Nivleu, Beachat, elles se sont toutes avalées en une, elles se sont toutes unies en une seule et même pierre. C'est pour ça que, avant de se coucher, il a pris plusieurs pierres. Quand il s'est levé, il a trouvé que toutes les pierres se sont unies en une seule et même pierre. Vachalom. Ensuite, la Gemara continue donc avec cette histoire. Yaakov, en dormant là-bas, il a fait un rêve. Vinez Soulam, il a vu une échelle. Moutavarta qui était posé par terre, à terre, et qui arrivait, son sommet arrivait jusqu'au ciel. Tana, une breta explique, Kamarokhbosh al Soulam, combien fait la largeur de cette échelle? Shmonat alafim parsaot, 8000 parsaot. Chaque parsa, ça fait à peu près 4 kilomètres. Donc, 8000 parsaot, ça fait 32 000 kilomètres. Dirtiv, comme le pasuk dit, Veine malachai elokim olim viordimbo. Sur cette échelle-là, montaient et descendaient les anges d'Hachem. Olim shnaim. La Torah dit au pluriel montaient, deux anges montaient, viordim shnaim, et deux descendaient. Donc ça faisait quatre malachim en même temps, parce qu'ils se rencontraient quelque part dans l'échelle. Mechipagou bade adade. Lorsqu'ils se rencontraient au milieu de l'échelle, à vous le harba, ils étaient quatre. Donc il fallait que l'échelle soit suffisamment large pour quatre malachim. Combien fait la largeur d'un malach? Uktiv bebe malach. Il dit à propos du malach, ugviato, et son corps, ketarchish, comme le tarchish. Tarchish, c'est le nom d'une ville, c'est le nom d'une mer plutôt, qui se trouve à un endroit qui s'appelle Tarchish. Ou bien non, c'est le nom de la mer elle-même. D'accord, c'est le nom de la mer, comme Tarchish explique. Donc, comme la mer. Combien est la taille de cette mer-là? Au Gmir et des Tarchish, on a appris que cette mer qui s'appelle Tarchish, très elle fait parser à vous, elle fait 2000 parsaot. Donc, pour 4 malachim, chaque malachim fait 2000 parsaot de large, pour 4 malachim, ça fait 8000 parsaot. Tana, Olin, encore une braïta qui dit, Olin, les malachim, ils montent au ciel. Qu'est-ce qu'ils voient au ciel? Ou Mishtaklin, Bediuknosh el Mala. Et ils voient en haut le visage de Yaakov. Veyordin, et quand il descendait en bas, ou Mishtaklin, Bediuknosh el Mata. Et ils le voyaient vivant en bas. Parce que, en haut, le siège, le trône d'Hachem est posé sur quatre visages, dont un qui est le visage d'un homme, qui est justement celui d'Yaakov. Donc ils l'ont vu en haut, et ils descendaient et le voyaient en bas. Ils étaient jaloux de lui, ils voulaient le mettre en danger. Baou le Sakune, ils voulaient le mettre en danger. Miyad, tout de suite, Veine Hachem Itav Alav, Hachem s'est tenu sur lui, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il m'allait Mikra Katouv, si c'était pas écrit clairement dans le pasuk, Yev Charles Moreau n'aurait pas pu le dire, que Adam Shemanif Albeno. C'est comme un père qui surveille son fils à chaud, il lui fait du vent. Ici aussi, Akadosh Baruch Hu, il a vu Yaakov en bas et il a gardé, il a protégé pour pas que les malachim ne le touchent, pour pas que les malachim ne le mettent en danger. Et dans ce rêve-là, Hachem lui a dit, Ha'aret Asher Ata Shochev Alea, la terre sur laquelle tu te couches, je vais te la donner à toi et à ta descendance. Donc, la terre sur laquelle Yaakov s'est couché, ça doit faire la taille d'un lit. Donc, de promettre à Yaakov, je vais te donner à toi et à tes descendants un terrain qui fait la taille d'un lit, c'est pas spécialement une grande bracha. Maïribouté, c'est quoi le chidouche, demande la Gemara, c'est quoi la grandeur de cette promesse-là? Amar Rabbi Yitzhak, Melamed, Shekipla, Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a plié, Nechol Eret Israël, toute la terre d'Israël, Vinicha Tachat Yaakov Avinu, et il a posé en dessous du corps de Yaakov Avinu quand il s'est couché cette nuit-là. C'était Nochal Ikavesh Levanav, c'était symbolique, ça faisait un signe pour que Yaakov puisse conquérir cette terre-là facilement, puisqu'elle était déjà conquise, il avait déjà dormi dessus. Donc, justement, c'était une grande promesse. La terre entière sur laquelle tu te couches, qui est toute la terre d'Israël, elle sera donnée à toi et à tes descendants. Yaakov a dit, le Malach a dit à Yaakov. Donc ça, on a terminé déjà avec l'histoire du rêve de Yaakov et on revient à l'histoire de la dispute entre Yaakov et le Malach. Le Malach a dit à Yaakov, Shalcheni, libère-moi, laisse-moi partir, qui alla à Shachar parce que le matin, le soleil s'est monté, s'est levé. Amarlo, Yaakov lui a dit, et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il fait jour? Tu as peur du jour? Ganavata, tu es un voleur? Okuviustusata, ou bien tu es un bandit qui vole des gens? Shemitiare mina Shachar, qui craint le matin? Amarlo malach, non, je suis un malach. Omiyam shenivreti, depuis le jour où j'ai été créé, lo igiazmani lo marshira adarshav, n'est pas arrivé mon temps de dire un chant à Hachem, de chanter à Hachem jusqu'à présent. Maintenant, c'est le matin, je suis obligé de retourner dans le ciel pour faire ma shira, ma chanson à Hachem. Mesayal le Rav Hananel Amarav, ça vient renforcer ce que Rav Hananel a dit, d'Amar Rav Hananel Amarav. Shalosh kitot shel malachim asharet, il y a trois groupes de malachim, omrot shira bechol yom, qui disent une shira chaque jour. Achat omeret kadosh, une qui dit kadosh, v'achat omeret kadosh, et la deuxième, la deuxième, v'achat omeret, et la troisième, elle dit kadosh, Hashem, tevakot. Donc on voit que les malachim ont une shira, et là justement, le malach en question qui s'est disputé avec Yaakov lui a dit, écoute, libère-moi, je suis obligé de partir. J'ai un rendez-vous dans le ciel, je dois faire ma shira. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Que justement, c'est arrivé comme par hasard ce jour-là, l'occasion. Il voulait se libérer. Il avait peur de Yaakov, alors il a trouvé un prétexte. Il a dit, non, je suis obligé de monter. C'est quoi cette histoire-là? Alors, on explique. On voit de là un moussard très important. Que le Yetzer Hara, son intérêt, c'est d'être vaincu. C'est pas de vaincre. Son intérêt du Tzara, ce qu'il veut, c'est qu'on le surmonte. Et donc ici, le malach de Esav, l'ange de Esav, qui est le Yetzer Hara, et lui, en se disputant avec Yaakov, il espérait tout le temps, donc il attaquait Yaakov, mais en espérant que si Yaakov qui va terminer par le vaincre, et donc quand il était vaincu, Baruch Hashem Sof, il a terminé son rôle, il a terminé sa avoda, et donc, Baruch Hashem, il peut faire une shira à Hashem. C'est justement le moment de faire la shira. Donc celui qui croit rendre service à son Yetzer Hara en l'obéissant, ben c'est une grave erreur. On continue donc dans la Gemara. Métivé. Chavivin Israël, les bnei Israël, ils sont tellement chers, ils font un kadosh baruch devant Hashem. Yoter imalach hasheret, même plus que les malachim. Pourquoi? Chez Israël, omrim shira bechol sha. Premièrement, les bnei Israël, ils chantent à Hashem tout le temps. Ou malachim asharet, tandis que les malachim ils sont limités. En amrim shira la pamachat v'yom, ils peuvent chanter Hashem que une fois par jour. V'amrei la, il y en a qui disent pamachat b'shabbat, une fois par semaine. V'amrei la pamachat b'chodesh, une fois par mois. V'amrei la, il y en a qui disent pamachat b'shana, une fois par an. V'amrei la, il y en a qui disent pamachat b'shavua, une fois par 7 ans. V'amrei la pamachat b'yovel, il y en a qui disent une fois par 50 ans. V'amrei la pamachat ba'olam, une fois. Il y en a qui disent que les malachim n'ont le droit de chanter à Hachem qu'une fois dans le monde entier. Donc, dans tout le temps où ils existent, ils n'ont le mérite de chanter à Hachem qu'une seule fois. Alors que les bénis Israël, ils peuvent tranquillement faire les 3 tfilotes par jour avec infiniment de louanges à Hachem. Et même entre les tfilotes, ils peuvent ouvrir le Tehilim, qui est plein de louanges, ils peuvent louer Hachem comme ils veulent, dans n'importe quelle langue, n'importe quel endroit, n'importe quel moment. Donc ça montre combien Kadosh Baruch Hu est intéressé par la Shira, la chanson de Bnei Israël. Ensuite, Israël mazkirin et Hachem, achar shetevot. Plus que ça encore, les Bnei Israël, ils peuvent oser dire le nom d'Hachem après 2 mots. Chez Neymar, Shema Israël, Hachem. On dit Shema Israël, écoute Israël, tout de suite après on dit Hachem. Donc, il suffit de se préparer en disant 2 mots, Shema Israël, et ensuite, on peut déjà dire le nom d'Hachem. Tandis que, ou Malachi Asharet, les Malachim, en Malkirin et Hachem, les Achar Shalosh Tevot. Ils ne peuvent citer le nom d'Hachem que les Achar Shalosh Tevot après 3 mots. Kedirtiv, Kadosh, 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 Hashem Tzvakot. Donc il y a trois mots avant le nom d'Hashem. Ve'en malachah sharet omrim shira lemala. Et non seulement ça, mais les malachim ne peuvent dire de shira, de chanson en haut, que al shemru Israël et mata, qu'après que les bénis Israël l'ont fait en bas. Sheneemar, comme dit le pasuk, Beron yachad, Kochve Boker, Beron, c'est Rina, c'est une chanson, Yachad ensemble, Kochve Boker, les étoiles du matin, qui sont les étoiles, qui est comparé aux étoiles, les Bnei Israël. Quand les Bnei Israël, ils chantent, ils font leur Shira, Vehadar, c'est qu'à ce moment-là que, ensuite, Veyari ou Kol Bnei Elohim, que tous les Malachim peuvent faire aussi leur Shira. Donc, quelle est l'objection? Tout ça, c'est une Braïta, qui vient montrer combien les Bnei Israël sont plus précieux même que les Malachim. Devant Akadosh Baruch Hu. Mais l'objection était, parce que on avait dit que il y a un groupe de malachim qui disent Kadosh, un deuxième qui disent Kadosh, un troisième qui disent Kadosh Hashem Tzvakot. Donc après un seul mot, ils peuvent déjà dire le nom d'Hashem. Le troisième groupe, il ne dit que Kadosh Hashem Tzvakot. Tandis que dans cette braïta, on a vu que les malachim ne peuvent citer le nom d'Hashem qu'après trois mots. Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzvakot. Répond la Gemara. Elle a, il faut dire comme ça, un chatomeret kadosh, il y a un groupe de malachim qui disent kadosh, le chatomeret kadosh kadosh, le deuxième ils disent kadosh kadosh, le chatomeret et le troisième groupe ils disent kadosh 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 Hashem Tzvakot. Donc là vraiment ça ne vient qu'après trois mots. Demande à Gemara Veika Baruch, pourtant on dit Baruch Kvod Hashem Imkomo, ici après deux mots, Baruch Kvod, les malachim citent déjà le nom d'Hashem. Parce que ça, ça fait partie des chants des Malachim. Donc, oui, le Kadosh et Baruch, tout ça, c'est le chant des Malachim. Répond la Gemara, Ofanimu, c'est pas les Malachim, c'est un autre degré de Malachim qui s'appelle Ofanim, qui s'appelle pas Malachim. Et c'est eux qui disent, ou d'Amrele, c'est eux qui disent ce pasuk de Baruch Kvod Hashem Komo. Vibaitema, et si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Une fois que les malachim ont déjà été autorisés de citer le nom d'Hachem après avoir dit Kadosh, 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 ensuite quand ils veulent ajouter dessus Baruch Kvod Hashem, là ils n'ont plus besoin effectivement de dire trois mots avant le nom d'Hachem, ils peuvent se suffire de deux mots uniquement.